Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
Bienvenue dans Les Experts avec une riche actualité aujourd'hui. Et tout d'abord, ces annonces qui viennent de tomber de la part de Total, de CMA, CGM. Et oui, des ristournes sur le prix du litre d'essence, sur le transport maritime, sans doute pour éviter la taxation des super profits liés à l'envolée des prix de l'énergie et du fret. Est-ce que c'est la solution la plus sage ? Nous reviendrons évidemment sur la hausse des taux d'intérêt de la BCE. Pourquoi faire ? Est-ce qu'il faut craindre la fragmentation de la zone euro ? Et puis, panorama de la conjoncture mondiale. Est-ce qu'on va vers une récession ? De quelle ampleur ? Quels pays sont les plus menacés ? On reviendra sur les prévisions de l'OFCE pour les 5 prochaines années. Elles ont déjà déclenché le mécontentement de mes invités qui, eux aussi, publient des prévisions. Eh bien, ils nous donneront leur propre diagnostic. Prévision assez pessimiste sur les finances publiques, alors que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui, promet un engagement sans précédent pour ramener le déficit. Tout ça dans nos programmes européens, évidemment, mais je ne sais plus ce qu'on peut faire. Beaucoup confiance à toutes ces promesses qu'on a faites à Bruxelles sur la réduction de nos déficits publics. C'est aussi ce qu'on verra avec nos invités que je vous présente tout de suite. Avec nous aujourd'hui, Laurence Daziano. Bonjour Laurence.
Bonjour Emmanuel.
Laurence, vous êtes maître de conférence à Sciences Po et membre du conseil scientifique de la Fondapol. Denis Ferrand, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Denis, vous êtes directeur général de Rex et Code. Et Ludovic Subran, chef économiste d'Allianz. Je cite votre dernier livre ou ça fait trop longtemps ? Parce que j'ai repris les fiches de Nicolas Dos.
Collectif.
Ah, voilà. Donc, co-auteur de Je comprends enfin l'économie, 25 questions qui font l'actu chez Duno. Bah, c'est ce qu'on attend de vous aujourd'hui, de décrypter l'économie. Allez, on commence quand même avec ces annonces Total qui nous promet 20 centimes puis 10 centimes de moins à l'automne sur le litre d'essence. CMA CGM qui réduit aussi ses taux de fret. Le but, c'est quoi, Ludovic Subran ? C'est d'éviter la taxation des super
le
profits.
Le courroux de Bruno Le Maire. Non, je pense que ça montre deux choses. La première chose, c'est que les prix de l'énergie, les prix du brut ont baissé et qu'il était temps en effet que les prix des transports et les prix du gaz à la pompe, du pétrole à la pompe baissent. Ça montre la première chose, c'est que c'est quand même des joyeux cartels. C'est-à-dire qu'on doit annoncer les baisses de prix, on se croirait au temps de l'ORTF, quoi. C'est intéressant. Alors, donc ça, bon, ça montre qu'il y a peut-être un petit sujet sur la transmission des prix. La deuxième chose, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que souvent il y a une rigidité à la baisse lorsqu'il y a des baisses des prix de l'énergie au brut, enfin du moins à la source. Et donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français et puis pour les coûts de transport pour les entreprises qui importent et qui ont connu des coûts de transport qui ont presque quintuplé en 2 ans. Donc c'est quand même pas mal. Mais bon, c'est que 25% et c'est que 20 centimes. Attendons de voir s'il y a un petit peu plus d'efforts à faire sur la fin de l'année. Et je pense malheureusement que ça ne va pas leur échapper, la taxe sur les superprofits.
Alors justement, c'était ma question, Laurence Daziano. Est-ce que ça les dispense finalement de subir une taxe exceptionnelle sur les profits, taxe qui a été décidée en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne, en Roumanie, en Bulgarie ?
Alors malheureusement, c'est la taxe qui va bien dans l'opinion publique, mais dans les faits, une taxe sur les super-profits, c'est quoi les super-profits pour une entreprise ? Est-ce que c'est vraiment le rôle le rôle d'une entreprise quand elle fait des profits, c'est quand même de les réinvestir. Une entreprise, elle a des emplois. Quand elle fait des profits, elle les réinvestit. Il faut aussi que l'entreprise puisse continuer. Est-ce que ce sera mieux utilisé en étant ponctionné par l'État pour des dépenses dites sociales, ou est-ce que ce n'est pas l'entreprise qui, créant un système économique avec de l'emploi, des investissements et l'avenir, qui va utiliser au mieux cette manne ? Ouais. Donc c'est quand même toute la question de est-ce que c'est une vraie mesure qui va avoir un vrai impact économique in fine, ou est-ce que c'est pas le sparadrap sur la jambe de bois et qu'en fait cet argent pourrait être mieux utilisé justement par l'entreprise.
Bah, d'ailleurs, Denis Ferrand, est-ce que c'est pas mieux pour les consommateurs finalement de bénéficier directement d'une ristourne à la pompe plutôt que de passer par une hausse des taxes dont on ne sait pas trop finalement comment elle reviendra dans la poche des consommateurs?
Oui, c'est vrai que le consommateur le voit tout de suite. C'est vrai que c'est un effet qui se voit. Enfin, le consommateur, d'ailleurs, il est quand même assez étendu parce que en cette période d'été, vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'il n'y a pas que des Français qui circulent et qui achètent de l'essence.
Alors, en gros, c'est quand même intéressant. Si on s'intéresse effectivement uniquement à la mesure totale, à qui ça profite? C'est quand même ça la question.
En proportion, alors, ça dépend. Si on le regarde en proportion du revenu, ça va plutôt bénéficier aux ménages les plus pauvres. Mais si on le regarde en montant absolu, ça va bénéficier aux ménages les plus riches. Quand vous regardez sur un an, en gros, dans le premier décile de revenus, les revenus les plus faibles, les dépenses pour le transport en essence, c'est environ 600-620 euros par an. Mais dans le dernier décile, les revenus les plus élevés, c'est 1300 euros de dépenses par an en essence. Grosso modo. Pourquoi ? Parce que vous avez une multimotorisation des ménages les plus riches, vous avez des cylindrées qui sont en général plus élevées, et puis vous roulez plus quand vous avez plus de revenus. Donc, au total, en montant, ceux qui bénéficient le plus d'une ristourne sont les ménages les plus riches.
Si on est un peu vicelard, on se dit finalement cette baisse de 20 centimes à la pompe chez Total. Quand on sait que finalement ça ramènera peut-être les prix dans les stations Total au niveau des hypermarchés qui font zéro marge dessus. On se dit finalement la bonne aubaine, c'est pour ceux qui roulent sur l'autoroute, qui vont payer peut-être 20 centimes moins cher sur l'autoroute. Donc ça renforce un peu ce que vous dites, c'est-à-dire ça va profiter aux touristes étrangers, ça va profiter aux plus aisés finalement qui eux ont les moyens encore de prendre.
Exactement. Avec également le point qu'évoquait Ludovic tout à l'heure, qui est vraiment la répercussion sera-t-elle intégrale, parce qu'il n'y a pas, Total peut décider de baisser les prix dans ses stations. Qu'est-ce qu'il en sera aussi dans ce cas chez les autres distributeurs? Est-ce qu'ils vont baisser dans le même ordre de grandeur? Donc vous avez aussi un jeu concurrentiel qui, dont les cartes sont rebattues par ce type de mesures.
Plus généralement, Ludovic Subran, on finit la semaine là avec beaucoup de mesures qui ont été volées. Qui ont été votés.
Volés aux Français.
Votés. Mais non, on rend de l'argent aux Français.
Bon,
votés sur cette loi pouvoir d'achat, avec finalement beaucoup de mesures votées par les Républicains, par le Rassemblement National. Quel bilan vous faites, vous, de ce qui est passé avec cette... Est-ce que, notamment le partage entre des mesures qui sont durables, qui risquent de coûter cher longtemps aux finances publiques, et les mesures plus ponctuelles?
Bon, moi, c'est très compliqué cette loi pouvoir d'achat parce qu'on est déjà parmi les pays qui aujourd'hui faisons le plus d'efforts pour limiter le coût de la crise énergétique sur les ménages et notamment sur les ménages en France. Disons qu'on met aujourd'hui déjà plus de 2 points de PIB de mesures de pouvoir d'achat. On a commencé avant les autres, on a commencé en novembre. Et là, on renforce le dispositif. Donc ça pose des questions de pourquoi des gens qui ont de l'épargne de côté ne peuvent pas utiliser leur épargne pour payer, pour absorber une partie du coût de la guerre. Parce que les mesures qui sont votées ne sont pas très progressives. Elles bénéficient à tout le monde. Le bouclier tarifaire, bien sûr, c'est la plus grosse et la plus chère et celle qui est la plus inégale. Puisqu'en fait, plus vous êtes riche, plus le bouclier tarifaire est positif pour vous. Mais dans les mesures pouvoir d'achat qui ont été votées ou celles qui sont proposées, il y a une flopée de mesures régressives. On veut faire baisser les prix à la pompe, c'est pour tout le monde. On veut faire des contrôles, des mesures qui, à part sur les minima sociaux, l'allocation adulte handicapé, tout ça c'est des bonnes mesures, c'est déjà ciblé. Mais l'ensemble des autres mesures, moi je trouve qu'elles sont très coûteuses et qu'elles sont... elles ne sont pas très soutenables pour les finances publiques, puisqu'on est déjà, encore une fois, au-dessus de 2 points de PIB de coût. C'est censé être des mesures d'urgence, mais on ne voit pas la fin de la crise énergétique. Et par rapport aux autres pays, parce que c'est toujours assez important, on fait 4 fois plus, ou 3 fois plus, ça dépend par rapport à qui on se compare. Et donc, je suis assez circonspect, en fait, de cette loi du pouvoir d'achat. Après, c'est une loi pour... C'est une loi de technopopulisme, en fait. C'est une loi pour les classes moyennes. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est ce qui a fait tomber Draghi. C'est-à-dire que Draghi tombe parce qu'il fait l'équivalent d'une loi pouvoir d'achat, il essaie de cibler davantage les mesures et sa gauche le sape. Donc c'est assez, ce type de discussion qu'on est en train d'avoir aujourd'hui sur jusqu'où va l'État dans la protection du pouvoir d'achat face à une crise énergétique, c'est hautement explosif et on est dans l'économie politique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas donner plus généreusement à ceux qui en ont le plus besoin, vous êtes obligé de donner à plus de gens pour éviter qu'ils descendent dans la rue, c'est un peu le syndrome post-traumatique des gilets jaunes.
Laurence Daziano, comment on fait pour éviter les deux écueils que sont d'un côté les mesures générales et qui coûtent cher durablement, et puis quand même, moi j'entends votre critique Ludovic sur finalement les mesures ciblées, sauf que on voit aussi par exemple, vous dites faites pour la classe moyenne, mais la réalité c'est que la classe moyenne elle est furax aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le problème c'est tous les gens qui sont juste au-dessus de ces effets de seuil et qui eux...
Mais aujourd'hui l'inflation aujourd'hui c'est un problème pour 20% des Français, on est en train de donner à 50% voire à 100%. Moi je trouve qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'on est en train vraiment de continuer de redistribuer de l'argent à des gens qui n'en ont pas besoin, alors que ces gens-là ils pourraient payer par exemple l'augmentation de leur facture d'électricité, ils pourraient payer un prix de l'essence un peu plus élevé, et on est en train de le payer avec l'argent du contribuable. Donc ça pose quand même d'énormes questions sur, à mon avis, ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire il faut aider davantage ceux qui en ont le plus besoin, et aujourd'hui c'est 10-20% des Français. Les autres, je suis désolé, c'est une crise pour tout le monde, il y a le coût de la guerre, il faut absorber un petit peu tout ça dans son épargne et puis sa consommation courante.
Laurence Daziano, sur l'équilibre de cette loi pouvoir d'achat.
La difficulté, effectivement, c'est de cibler dans les mesures ceux qui en ont le plus besoin. Et le fait de saupoudrer un peu partout, y compris sur ceux qui pourraient ne pas en avoir besoin, la difficulté, c'est que le ciblage est vraiment très compliqué. Pour le reste, il y a un point sur lequel je suis d'accord, c'est qu'on a une guerre en Europe depuis fin février. Cette guerre, elle va avoir un coût. Et le fait de dire qu'elle n'en aura pas, c'est mentir aux gens. C'est-à-dire que cet hiver, on va avoir des problèmes d'énergie. Et donc là, tous les Français se sont égayés, sont partis en vacances. Mais cette guerre, elle aura un coût et tout le monde devra faire un effort. Tout le monde devra faire un effort. Et c'est cette notion-là qui, c'est pas politiquement populaire de le dire, mais il y aura un coût. Il va falloir le payer.
Alors, Denis Ferrand, c'est ça effectivement qui est préoccupant. C'est-à-dire qu'à la limite, cette loi pouvoir d'achat, ça concerne quoi? Ça concerne l'automne. Et là, on se
ça
dit.
C'est surtout 15 milliards.
Et là, on se. Oui, alors, 15 milliards.
Ça concerne l'automne, ça concerne 15 milliards.
Non, mais ce que je veux dire, quand je dis, Ludovic, ça concerne l'automne, ce que je veux dire, c'est que le véritable enjeu, c'est qu'est-ce qui se passe à partir du mois de janvier, quand on n'aura plus les boucliers tarifaires. Et effectivement, vous qui vivez en Allemagne, on voit bien que, par exemple, en Allemagne, les esprits sont bien davantage préparés.
La facture d'électricité a doublé.
Oui, mais je veux dire, on a l'impression qu'on prépare beaucoup plus les Allemands au temps difficile à venir que les Français, alors que l'automne et l'hiver vont quand même être assez durs.
Mais c'est vrai que les temps sont déjà très difficiles en Allemagne, en Italie, en Espagne, beaucoup moins en France. Quand vous regardez le pouvoir d'achat du revenu des ménages en France en 2022, il sera supérieur de 1% à peu près à son niveau de 2019. Il n'y a aucun autre pays européen qui va se retrouver dans cette situation. En Allemagne, on sera aux environs de moins 5. Ce sera aussi à peu près le cas de l'Espagne. On sera à moins 5 et l'Italie sera à moins 3, moins 4. Donc, on a déjà énormément amorti relativement aux autres Européens. Et par rapport à ce dont on parlait à l'instant, que Laurence évoquait sur l'économie de guerre et la préparation à l'économie de guerre, je me rappelle d'un papier qu'avait fait Jean Pisani-Ferry au début du conflit en Ukraine, dans lequel il disait « Si vous n'êtes pas capable de faire comprendre à votre population qu'il va falloir abandonner 2% de son PIB quand en face de vous, vous avez quelqu'un qui est prêt à faire supporter une perte de 20 points de PIB, vous avez déjà perdu. Vous avez déjà perdu dans la défense de vos valeurs. » Et donc on a aussi, derrière la pédagogie, derrière la perte que l'on a à subir, c'est véritablement ce à quoi on assigne l'économie et ce que l'on est prêt à endurer comme difficulté par rapport à ce que l'on professe comme étant nos valeurs. Et ça, je pense que c'est aussi une question qui va bien au-delà de la seule économie, mais qui interroge la politique, le sens politique que l'on doit donner à nos actions.
Oui, parce que là, c'est pas seulement une affaire de facture, c'est aussi une affaire de tous les messages politiques qu'on a fait passer jusqu'à maintenant et qui va bien falloir presque inverser.
On commence à parler de sobriété, par exemple. On n'en parlait pas il y a 4 mois, alors que c'était évident que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, pour citer le président. Et donc, le fait qu'on parle aujourd'hui seulement de mesures de sobriété, ça montre qu'on est assez en retard. Et je pense que le discours politique sur ce que disait Laurence, hein, sur... On ne veut pas expliquer aux Français qu'il y a un coût de la guerre parce qu'on dit mais on va vous aider, on va vous sauver de tout. C'est un peu dommageable parce que là, aujourd'hui, on sait combien ça va coûter jusqu'à la fin de l'année. Mais si ça dure, c'est impossible en fait pour l'État de continuer d'éponger, surtout de façon aussi régressive, encore une fois, la facture totale de cette guerre et notamment de cette guerre énergétique avec la Russie.
Pour aller dans le sens de ce que vous disiez, Denis, le rapport du Conseil d'analyse économique publié hier sur la situation financière des ménages à partir de données bancaires extrêmement récentes montre que finalement il n'y a pas de dégradation très forte et généralisée de la situation financière des ménages dont on a l'impression qui crie avant d'avoir mal finalement, puisque même les ménages les plus modestes, il n'y a pas de ménage supplémentaires, par exemple, dont le compte bascule dans le rouge. Même quand on regarde, par exemple, les étudiants qui touchent les aides sociales, il n'y a pas de baisse de leur niveau de consommation. Donc, pour le moment, ça va plutôt pas si mal pour les consommateurs.
Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'augmentation du taux de pauvreté. Enfin, faut quand même se rappeler de là d'où on vient. Ça fait quand même, avant la guerre en Ukraine, il y a eu quelque chose qui s'appelait le Covid. Ça, on a quand même perdu 8 points de PIB à un moment. Et au total, malgré ce 8 points de PIB, il y a eu une protection. Et c'était normal. C'était une décision administrative, de toute façon. Donc, il y avait une protection qui a été installée. Mais il n'empêche que le taux de pauvreté a perduré. Mais aussi, dans l'étude du CAE, je pense que ce qui va être très important, c'est de regarder aussi ce qui se passe en termes de, là encore, conséquences du Covid, ou en tout cas traces du Covid, ce qui se passe en termes de surépargne. Toute cette surépargne qui a été accumulée par les ménages qui ne pouvaient pas dépenser et qui ont vu leurs revenus protégés. Mais en fait, il apparaît que c'était dès le mois de mars que le CAE avait sorti une préalable étude un peu sur le même champ, qu'ils avaient montré que la surépargne des ménages des deux premiers déciles avait déjà été rincée par le passage de l'inflation. Donc, quand bien même il n'y a pas eu de basculement, d'augmentation, de situation de surendettement, par exemple, la Banque de France n'en voit pas jusqu'à présent, quand bien même il n'y a pas eu de fragilisation accrue, il n'empêche qu'un des leviers que pouvait avoir, sur lesquels pouvaient s'appuyer les ménages les plus pauvres n'existe plus. Et ce faisant, on voit bien justement l'intérêt de, là encore, redisons-le, de bien cibler ce que l'on met en place, et on fait à peu près le contraire.
Alors, pour boucler la première partie de ces experts sur la France avant de passer l'économie mondiale, quand même, le débat sur les finances publiques que vous évoquiez, Ludovic, d'un côté, on voit que Bruno Le Maire tient des discours en nous disant on va limiter la progression des dépenses publiques comme on ne l'a jamais fait depuis 20 ans au cours du quinquennat. Alors on a quand même en volume, on a quand même une progression quand même de la dépense publique. Et puis à côté de ça, vous avez l'OFCE qui d'habitude n'est pas trop allergique au déficit public et qui nous dit on aura encore 3,7% de déficit public, soit 0,7 points au-dessus de l'objectif gouvernemental en 2027. Qui est-ce qu'il faut croire? Et puis alors je vais vous laisser donner libre cours à vos propres prévisions qui sont aussi valeureuses que celles de l'OFCE, bien entendu. Laurence Daziano, sur l'équilibre des finances publiques, quand même, on promet des choses à Bruxelles comme on l'a fait pendant très longtemps. Alors, vous allez voir ce que vous allez voir, on va être rigoureux, puis on ne l'est jamais en fait. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer vraiment que ça change?
Non, je verrai la situation d'un autre côté. Je dirais qu'un pays qui dépense à tout va, comme dit Ludovic, et vu notre endettement qui s'est considérablement creusé ces dernières années, moi je vois plutôt un problème de crédibilité au niveau de l'Union européenne et même sur la scène mondiale. Quelle est la crédibilité de la France aujourd'hui sur la scène mondiale? Mais quel que soit le domaine, quand vous êtes un pays qui est aussi endetté, qui ne fait aucune réforme, et qui va clamer partout qu'il va faire bien, et voire donne des leçons au reste du monde. On n'a plus de crédibilité. À partir du moment où on n'a plus de crédibilité sur la scène internationale, on n'est plus pris au sérieux par personne, notamment par les grands acteurs économiques. Moi, c'est plutôt ça que je vois aujourd'hui comme conséquence du fait que on n'arrive pas à être fourmi et qu'on continue à être cigale, voire le vote d'hier.
Vous avez exubérant l'avenir.
C'est compliqué parce que tout le monde est. Il y a très peu de gens qui sont fourmis. Donc en fait, on est un peu au royaume des bornes, des aveugles, les bornes sont rois. Je suis très surpris, moi. En Allemagne, par exemple, il y a une discussion en ce moment sur une baisse de 10% du budget. Alors je ne sais pas si ça va passer parce que la gauche, les verts.
10% de réduction de la dépense publique.
Ouais. Sur 5 ans. Ouais. Et comme vous savez, ils sont, encore une fois, sur les mesures pouvoir d'achat, par exemple, ils sont à 0,6, 0,7 points de PIB, on est déjà au-dessus de 2. Donc, pour vous donner une idée, qu'en plus, ils ont déjà fait acte un petit peu de fourmis sur l'aide aux ménages, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est une question de crédibilité. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que les coûts de l'endettement ont augmenté. Donc, en fait, c'est pas anodin, 100 points de base sur la dette française, hein, c'est 3 milliards, 4 milliards aujourd'hui, c'est 33 milliards dans 10 ans. Donc, en fait, il faut quand même se rappeler que c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va avoir des arbitrages, mais dans 5 ans, dans 10 ans, on risque d'avoir des arbitrages sur des dépenses courantes importantes, sur plus de fonctionnaires, moins de fonctionnaires. Enfin, je trouve qu'il y a des dépenses aujourd'hui qui pourraient être mieux réfléchies. Parce que elles vont nous poser certains sujets dans quelques années. Pas parce qu'on n'aura pas respecté les règles. De toute façon, je suis assez d'accord avec l'OFCE. Je ne pense pas qu'on ait de réduction rapide du déficit public, mais plutôt par la discipline des marchés, quoi. Et ça, c'est quand même, c'est un peu le changement de paradigme dans lequel qu'on vient de vivre. C'est-à-dire qu'on a de nouveau des taux d'intérêt qui augmentent, on a de nouveau des coûts de dette qui augmentent, et donc c'est plus la période de l'argent magique et des taux d'intérêt négatif qu'on connaissait, quoi. Et donc ça, il faut garder ça en tête. Ça change un peu la donne sur la discipline des finances publiques aussi.
Denis Ferrand, est-ce qu'on refait les mêmes erreurs que dans le passé, c'est-à-dire protéger les ménages des chocs pétroliers, comme on l'avait fait dans les années 70, et les faire payer aux entreprises, et on voit ce que ça donne pendant 15 ans après, c'est-à-dire un effondrement de notre compétitivité et de notre tissu économique?
Alors, pour l'instant, sur les entreprises, il va y avoir quand même la baisse des impôts de production à nouveau qui est prévue pour l'année prochaine. Ouais. Donc, c'est aussi un coussin amortisseur qui va intervenir. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de traces de ce que les entreprises payent particulièrement ce choc de la crise. Pour l'instant. Mais quand on regarde les évolutions de prix relatifs, c'est très intéressant de voir que le prix des achats des entreprises progresse beaucoup plus vivement que ne le fait le prix de leur production. Donc leur prix de vente ne suit pas le même rythme de progression que le prix de leurs achats. Donc c'est beaucoup plus par des mécanismes économiques que les entreprises vont progressivement payer le prix de la crise que par des supplétifs fiscaux. Et je pense que c'est aussi cet aspect-là.
Ça veut dire quoi, Denis, sur la situation financière des entreprises? Est-ce que ça veut dire des trésoreries qui se pincent?
Ah oui.
Est-ce que ça veut dire des difficultés à rembourser les prêts garantis par l'État?
C'est ce qui est en train de se fabriquer. On le voit sur pas mal de petits signaux qui nous disent que la situation de trésorerie n'est pas encore mauvaise, mais quand vous faites moins de prix de vente que vous n'avez de prix d'achat, à un moment ou à un autre, ça se pince sur votre trésorerie. Ajoutons à cela que les augmentations de salaire sont plutôt devant nous qu'elles ne se sont d'ores et déjà produites. Effectivement, il y a aussi les moindres liquidités parce que les différents d'amortissement des PGE, désormais, sont révolus. D'ailleurs, on le voit bien, les conditions de crédit commencent à se tendre dans l'enquête que l'on a sortie au début de cette semaine sur la trésorerie auprès des grandes entreprises. Le chiffre que je trouvais le plus marquant, c'était pas tant l'appréciation de la trésorerie que l'appréciation que se font les trésoriers sur les conditions de financement, sur les recherches de financement. Elle se dégrade fortement. On a déjà une remontée des marges sur les crédits bancaires et c'est peut-être plus sur l'aspect de conditions de crédit qu'il va falloir s'arrêter sur les prochains mois. Et là encore, on revient sur des mécanismes de marché qui risquent d'être de plus en plus délicats, beaucoup plus d'aversion au risque.
Eh ben, c'est sur les conditions de crédit, la hausse des taux de la BCE et ses implications sur la conjoncture européenne. Et plus largement, nous passerons en revue les risques de récession dans le monde. Quels sont les pays les plus fragiles aujourd'hui? C'est dans quelques instants, dans la deuxième partie des experts. Restez avec nous.
Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
Et on retrouve nos trois experts du jour. Laurence Daziano, maître de conférence à Sciences Po, Denis Ferrand, le directeur général de Rex et Code, et Ludovic Subran, le chef économiste de Allianz. Nous avons consacré la première partie de cette émission aux problématiques françaises et on fait la transition, justement, puisque Denis parlait des conditions de financement des entreprises, avec la hausse des taux de la BCE. Ludovic Subran, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est une bonne mesure? Moi, j'ai l'impression que il y a rarement eu des décisions qui généraient autant d'effets négatifs que d'effets positifs. Et puis alors surtout, puisque ça va être quand même notre thème de cette deuxième partie, là, ce fameux risque de fragmentation, c'est-à-dire de diffusion inégale, différente des décisions de politique monétaire, fragmentation quand on voit les rythmes d'inflation différents entre tous les pays. Est-ce que c'est ça le vrai danger aujourd'hui ?
Bah oui, c'est un danger. Il n'y a qu'à se rappeler 2012, on était quand même dans une situation extrêmement difficile pour la zone euro. Donc le but, c'est d'éviter à tout prix de répéter les erreurs de 2012 et donc d'avoir un risque dit de redénomination. C'est-à-dire que les investisseurs parient sur la sortie de la Grèce, de l'Italie, de la zone euro. Et donc cet outil, il est principalement performatif. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil qui va résoudre les écarts de taux de crédit, mais il va en revanche calmer les ardeurs en disant « vous inquiétez pas, si d'aventure, à un moment donné, vous cherchez à spéculer sur la sortie de l'Italie, nous, on achète tout ce qu'il
c'est
faut. »
C'est la dissuasion nucléaire, massive. Monétaire massive.
Exactement. Donc la décision d'hier, donc, il y a la hausse de taux, 50 points de base, le consensus était plutôt à 25 points de base. Il faut se dire que la BCE ne le fait pas parce qu'il y a de la surchauffe en Europe, comme la Fed monte ses taux aux États-Unis parce qu'il y a de la surchauffe. Elle le fait en anticipation de la surchauffe. Elle le fait pour des questions de crédibilité. Elle est face à un trilemme, hein, si vous voulez, la stabilité des prix, la stabilité financière et sa crédibilité. Là, elle choisit de faire une hausse de taux parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de le faire face à l'inflation à 8%, 4% d'inflation sous-jacente. Ça lui permet de sortir de l'expérimentation des 10 dernières années, ou du moins des 8 dernières années, de taux d'intérêt négatifs. Ça, c'est quand même une grande première. Je pense que l'histoire nous dira si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée en termes d'inflation des actifs. Et après, la vraie question, et c'est surtout ça, hein, c'est là, la montée de 50, elle est à zéro, mais jusqu'où elle peut monter? D'où, quels sont les risques de récession? Première question. Est-ce qu'elle va pouvoir monter avant qu'on soit de nouveau en récession et qu'elle fasse acte de politique monétaire accommodante pour aider? Et puis, la deuxième question, c'est à quelle vitesse elle monte? Donc là, par exemple, les marchés s'attendent déjà à ce qu'elle refasse 60 points de base en septembre. Ça veut dire peut-être 75 points de base, ce qui serait beaucoup. Hein. Rappelez-vous, la Fed, on s'attend à 50, elle fait 75, puis après, maintenant, on s'attend à 100. Donc, il y a quand même cette idée de, on pédale un peu rapidement parce que on était peut-être un peu en retard. Donc, 50 points de base, c'est pas trop grave. Il y a pas eu les criquets, les inondations. Enfin, vous voyez, on nous promettait quand même. voilà. Donc, c'est, apparemment, c'est pas trop grave d'avoir des taux d'intérêt à zéro. Mais la vraie question, c'est jusqu'où? Nous, on pense qu'elle va s'arrêter autour de l'automne. Je pense que ça va être très difficile, à part la hausse de taux de septembre et peut-être une autre, de refaire des hausses de taux parce qu'on a la croissance qui faiblit. Sur l'outil anti-fragmentation. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle d'avoir annoncé l'outil. Les marchés n'ont pas hyper bien réagi, mais quand même, les spreads se sont pas, les écarts de taux de crédit se sont pas complètement évasés. Le vrai sujet de l'outil, c'est le suivant. On avait déjà un outil qui était l'OMT, vous savez, le MES qui aidait les pays avec des très fortes conditionnalités. Ça, c'est pas assez gros et c'est trop rigide. Donc, l'outil qu'on fait là, il est un peu plus gros. C'est-à-dire, l'idée, c'est de mettre ce qui devrait être réinvesti du programme de la pandémie, donc à peu près 200 milliards, et pas trop le conditionner. Ça, c'est dans la théorie. En revanche, hier, on a eu des surprises parce que, par exemple, ils nous disent « Ah ben, en fait, on va quand même le conditionner un peu et on va le conditionner à la trajectoire soutenable de la dette publique. On va le conditionner au fait que le déficit public... » Et là, on se dit «
Mais oui,
attends,
parce que Ludovic, ça peut pas être complètement discrétionnaire.
Je pense que c'est mieux pour éviter le pacte de fausse entre politique monétaire et budgétaire. Mais ça peut faire débat. C'est-à-dire jusqu'où on doit aller dans le détail et quel type de conditions on doit mettre. Moi, ce que je peux vous dire, que si le but, c'est sauver le soldat Italie, quand je lis les points qui sont faits, il n'y a aucun des critères qui sont ex ante remplis par l'Italie. Alors qu'on sait que l'outil, il est quand même fait pour, et vous voyez la crise qu'on a aujourd'hui en Italie, il est fait pour éviter le coup de chaud sur les écarts de taux de crédit italiens. Donc c'est assez intéressant d'avoir, ils ont peut-être dit pas assez sur certains aspects, ils sont restés très opaques sur l'implémentation, et à côté ils ont voulu absolument faire, oh là là, on va quand même mettre des conditions, et puis tant qu'à faire, mettons-les sur des sujets budgétaires, alors que les pays qui doivent être aidés sont très loin de ces critères budgétaires, et deux, la Commission européenne est aux abonnés absents sur la réforme de ses règles budgétaires. C'est-à-dire, le président Macron veut changer les traités, ça n'arrivera pas, et donc la question c'est comment on interprète les traités, comment on individualise les trajectoires de consolidation des finances publiques pour permettre, à horizon 2023, d'avoir quelque chose où on n'est pas sur 28 pays, on n'en a pas 25 qui ne sont pas dans les clous, parce que c'est un peu ce qu'on va avoir en 2023.
Laurence Daziano, cette hétérogénéité croissante des taux d'inflation, des performances entre pays européens, ça vous inquiète quand même, ça fragilise l'Europe ?
Oui, alors, mais même au-delà de l'Europe, je ne sais pas si on passe tout de suite au monde, bien sûr que ça va fragiliser l'équilibre européen. Je suis un petit peu comme Ludovic, je me dis qu'augmenter les taux de 50 points de base, on n'est plus dans des taux négatifs, on revient à des taux, alors là on est à zéro. J'ai toujours un petit peu de mal avec le taux négatif, donc on commence à revenir dans des schémas économiques qu'on connaît. Mais c'est vrai qu'entre l'augmentation des taux, Alors là, il y a la BCE, mais il y a aussi eu la Fed avant et la Fed après. Le ralentissement de la croissance chinoise, quand même le poids des sanctions russes. On voit bien quand même qu'on est rentré dans une période où beaucoup plus d'incertitudes, notamment pour 2023. Et c'est le FMI qui dit attention, récession 2023. Et c'est vrai que le risque de récession mondiale en 2023, la crise européenne et notamment la crise italienne, là, elle arrive quand même au mauvais moment.
Bah, allons-y sur le risque de récession. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui en termes de choc potentiel ou bien en termes de fragilité? Quels sont les pays, par exemple, les plus vulnérables et ceux qui s'en tirent plutôt bien?
Alors, on vient de le dire, un des premiers chocs, c'est l'augmentation des taux, parce que ça, notamment dans les pays émergents, ça a renchéri beaucoup l'argent. Vous avez l'inflation. L'inflation, il y a eu un rapport du PNUD, le programme des Nations Unies sur le développement, qui a montré que là, l'inflation avait entraîné des dizaines de millions de personnes dans la pauvreté, un peu plus de 70 millions à date. La pauvreté, c'est quand on a moins de 1,90 $ par jour pour vivre par personne. Quand vous avez l'augmentation de la pauvreté, vous avez les troubles sociaux. Et on l'a vu au Sri Lanka. Le Sri Lanka, ça a commencé par une crise économique qui est devenue une crise politique. Et là, le Sri Lanka, c'est l'exemple même de ce qui va se passer dans les pays émergents. Augmentation des taux d'intérêt, augmentation de l'inflation. Vous avez des pays comme le Pakistan, le Bangladesh, qui là sont dans des situations qui sont très difficiles économiquement. Alors, on n'en parle pas parce qu'ils sont loin. Le Bangladesh, c'est un peu plus de 100 millions d'habitants. Le Pakistan, c'est un peu plus de 240 millions d'habitants. Donc, ce sont quand même des pays qui commencent à être lourds. Et puis, vous avez cette grosse inconnue qui est la Chine. La Chine a annoncé un taux de croissance officiel de 0,4% au deuxième trimestre. Donc, vous dites que si le taux officiel est à 0,4%, bon, la Chine est il est négatif en réalité. Donc, une Chine qui n'atteindra pas ses objectifs de 5,5% de croissance en 2022. Et puis, cette politique de Covid zéro, aujourd'hui en Chine, vous avez un peu plus de 40 villes qui sont encore sous confinement. Vous avez plus de 260 millions de personnes en Chine qui sont sous confinement. Ça fait juste 4 fois la population française qui est encore confinée. Ça fait à peu près 20% de l'économie chinoise qui est confinée. Donc, quand vous avez un pays qui tire, 20-25% de la croissance mondiale, qui est déjà amputé lui-même à 20%, qui n'arrive pas avec sa politique de Covid remettre les machines en route, vous dites que ça va pas être bon pour tout le monde. Et puis vous avez le dernier gros facteur pour moi qui est la Russie, avec les sanctions contre la Russie. Le problème que je vois, c'est qu'il y a quand même que les Européens à appliquer les sanctions qui sont bypassées de partout. Le commerce extérieur russe n'a jamais été aussi haut. Ils ont un surplus qui est qui n'ont jamais eu jusqu'ici. Le rouble s'est beaucoup apprécié. Le rouble est cher et on voit pas très bien comment on va se sortir de. Voilà, on fait un bloc et on va revenir. Là, c'est là qu'on revient sur la question énergétique. C'est qu'on fait un bloc contre la Russie. C'est très facile de mettre des sanctions contre un pays. Surtout que là, elles s'aggravent régulièrement. Ça va être beaucoup plus difficile de les retirer. Et l'impact qu'il y aura, c'est sur les Européens. Parce que quand les Russes peuvent plus vendre leur pétrole aux Européens, ils les vendent aux Indiens, qui raffinent et qui revendent le gazole raffiné aux Européens, parce que les Européens n'importent plus directement de Russie. Donc, Et les Indiens font un beau profit sur le sujet. Donc la zone euro, avec tous les éléments qu'on vient de dire, elle est vraiment fragilisée.
Est-ce que l'Europe, c'est encore l'idiot du village global différent finalement?
Je pense que ça peut être allé un peu vite en besogne de le dire.
C'est l'expression d'Hubert Védrine, hein,
bien entendu. Mais peut-être pour compléter sur la Russie, les sanctions, effectivement, on voit bien qu'elles ont un impact immédiat, qui est le gonflement de l'excédent commercial russe, qui est absolument pharaonique. Mais il y a aussi une autre conséquence, c'est les blocages de production très forts qu'il existe en Russie. Quand vous avez une production industrielle qui recule fortement en Russie, quand vous avez la production de véhicules qui est 97% en dessous de son niveau d'il y a un un an en Russie, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences aux sanctions et qu'on ne vient pas bloquer en fait, l'outil de production russe. La question, c'est exactement ce qu'évoque Laurence. On le voit en termes de diffusion du pétrole qui passe par l'Inde et puis ensuite, nous rachetons le pétrole qui est raffiné par l'Inde. Ouais, super. Mais c'est aussi la substitution qui se met en place progressivement dans les canaux commerciaux. C'est-à-dire que plus les sanctions durent, moins elles sont efficaces parce que les Chinois font la queue à Moscou pour aller vendre leurs produits en substitution de produits qui étaient auparavant achetés par les Européens parce que ça devient simplement des produits de nécessité fondamentale pour l'économie russe. Donc c'est vrai que les sanctions sont efficaces par le blocage qu'elles font de la production russe, mais est-ce qu'elles vont mordre suffisamment vite et suffisamment profondément pour faire en sorte que l'outil, cette fois-ci pas seulement de production, mais l'outil militaire russe se trouve bloqué dans sa capacité à produire.
J'ajouterais que même si elles mordent, et elles vont commencer à mordre effectivement parce que il commence à y avoir des pénuries, notamment de produits technologiques, parce qu'il va commencer à y avoir du chômage, les entreprises occidentales qui se sont retirées ont payé un certain temps les salaires, mais au bout d'un moment, elles vont s'arrêter, donc il va y avoir du chômage. Néanmoins, la population russe est également extrêmement résiliente. Et puis, surtout, l'économie, le politique prime sur l'économie en Russie, ce qui n'est pas le cas chez nous. Puisque le politique prime et que l'économie Poutine, c'est pas grave, il y a une crise, voilà. Donc, ce sera beaucoup plus difficile pour la Russie et ça aura un impact, oui.
Ludovic Subran, est-ce qu'on va vers une récession qui va concerner qui ?
Je crois qu'on est déjà dans quelque chose qui ressemble à une récession dans les pays industriels européens parce qu'ils ont eu, au début d'année, ils ont eu les deux chocs, Covid et Russie. Je pense que ce que dit Laurence est très important sur les émergents, on n'en parle pas assez, mais ils ont quand même la double peine avec la Chine en dépression économique, on va dire, parce que la Chine a eu, bien sûr, zéro Covid, mais elle a aussi Evergrande. Hein. C'était oui. Comme une crise de 2012 pour la Chine. Hein. C'est une crise du real estate, de l'immobilier. Donc la Chine ne croit pas. Et puis, ils ont des conditions monétaires et financières qui se tendent très fortement, parce que eux, les taux d'intérêt de la Fed, ils le sentent passer.
Ah, c'est le scénario noir, c'est-à-dire le dollar qui monte,
c'est ça.
La hausse
c'est
des taux de la Fed, pas vraiment remis de la crise sanitaire.
Ça, c'est hyper important, je pense qu'on ne le dit pas assez. Oui. En Amérique latine, par exemple, les gros pays d'Amérique latine ne sont toujours pas au niveau d'avant-crise sur leur PIB. Nous, on a parlé beaucoup du fait que l'Europe était revenue à son niveau d'avant-crise. En Amérique latine, les gros pays, le Mexique, le Brésil, tout ça, n'est toujours pas à son niveau, au niveau d'avant-crise. Donc, il y a quand même des pays émergents qui sont en situation difficile. Le Sri Lanka, c'est très particulier, hein, puisque le coût de financement de leur dette, le service de leur dette, c'est 56% de leur budget. Donc, en fait, c'était suicidaire, exactement. Donc là, il faut en effet faire la liste. Laurence a parlé Pakistan, Bangladesh. Nous, on a regardé aussi les risques sur la crise alimentaire, tout ça. C'est beaucoup des pays du monde arabe, de l'Asie du Sud, et après quelques pays d'Amérique latine ou d'Afrique qui sont concernés. Et ensuite, la grande question que tout le monde se pose quand même, hein, c'est le risque de récession aux États-Unis. C'est-à-dire, est-ce que les États-Unis, parce que tout le monde en parle, 60% des économistes interrogés aux États-Unis pensent qu'il y a une récession aux États-Unis en 2023. Et là, moi, je dis, comme en France, comme dans pas mal de pays du G7, il y a des risques de récession, mais il y a quand même énormément de poches de résilience. Denis parlait de la trésorerie des entreprises, on peut regarder la surépargne Covid, etc. La vraie question qu'on doit se poser, c'est même si on n'avait pas de récession très forte, ou si on en a une, je pense qu'on est dans un moment de tri. C'est-à-dire que on s'en fout de la magnitude de la récession. Enfin, on s'en fout pas parce que malheureusement, plus elle est forte, plus il y a de gens au chômage.
Mais en gros, moins 0,1, moins 0,3. Voilà.
En revanche, je pense que c'est un moment de sélection très fort entre le bon, la brute et le truand. C'est-à-dire que on va regarder dans les entreprises, par exemple, on voit un retour des faillites, un peu de normalisation du risque de crédit. On le voit d'ailleurs sur le taux auquel empruntent les entreprises dites high yield, celles qui sont pas très très, qui ont pas des très bons fondamentaux. On va voir en effet des ménages plus affectés, des secteurs plus affectés, la construction, le transport, la distribution. Et donc c'est ça je pense qu'il faut se rappeler ça, c'est-à-dire que ça fait 2 ans, on a essayé d'éviter récession, faillite, chômage, président de la République, mars 2020, qui nous explique qu'il n'y aura pas de faillite. Là, on a plus de dettes, plus d'inflation, et je pense qu'on a de nouveau un petit peu plus de sélectivité, de discrimination sur les agents économiques qui ont accumulé les vulnérabilités. Cette récession, elle va être, à mon avis, elle va avoir ce goût-là, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher les points de faiblesse relatifs des pays, des...
C'est darwinien, enfin. Quoi.
C'est très sélectiviste, ouais. Et donc, c'est pour ça que l'État devrait se concentrer sur aider ceux qui pensent qu'il faut qu'il aide, ça c'est pour les ménages, que pour les entreprises, il faut regarder vraiment avec qui on commerce. Et au niveau des pays, c'est le grand retour du risque pays. C'est-à-dire, il faut regarder, il faut, quand on est une entreprise internationale, il faut, ça, c'est plus 0,1, plus 0,3, c'est plus 20, moins 10. Et donc, il faut se préparer, il faut mettre en place la bonne veille pour essayer de se préparer.
Mais est-ce que vous qui auscultez en permanence les circuits de production mondiaux, etc., cette désorganisation des chaînes de valeur, microprocesseurs, matières premières, fret, etc., est-ce que vous voyez ça s'estomper progressivement ?
Je ne sais pas ce qu'on pense, Denis. Nous, on a, par exemple, on a montré qu'il y avait maintenant du surstockage dans plein de secteurs. C'est-à-dire qu'on commence à voir le retour de bâton. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu des pénuries pendant très longtemps et maintenant les carnets de commandes se tarissent un peu. Et en revanche, les gens continuent de recevoir les intrants qu'ils avaient commandés. Ils ne peuvent plus annuler parce que sinon ils payent des pénalités. Et donc on va arriver plutôt dans la situation inverse. La Chine se rouvre, même si ce n'est pas encore tout à fait fait. Et du coup, il y a un effet accordéon. Et donc on a trop de stocks. Et ça, pour les besoins en fonds de roulement des entreprises, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce que vous faites de tous ces stocks? Comment vous les épongez? Comment vous les monétisez? Alors certaines entreprises sont très contentes parce qu'elles ont acheté des stocks en dollars à un moment où l'euro était un peu plus fort. Donc il y a plein d'effets, mais moi je trouve qu'on a une normalisation des effets désorganisants, je voudrais dire de ce qui s'est passé en Chine. La crise énergétique, je pense que ça va rester avec nous, et la vraie question c'est qu'est-ce qu'on a appris de cette crise? Moi, on parlait de Total tout à l'heure, CMA-CGM aussi nous dit 25% de moins sur les coûts de frais. Ce qu'on a appris, c'est qu'on a quand même eu un gros déficit d'investissement en infrastructure commerciale dans le monde, et qu'au premier stress test qu'est Covid de ces infrastructures, on se rend compte que c'est le bordel absolu. Et que les gens qui restent chez eux à faire du télétravail, ils commandent sur Amazon des produits électroniques finis et qu'il n'y a plus de place dans les containers pour les intrants de construction, le matériau, le bois, les trucs comme ça. C'est ça. Et ça, c'est la vraie désorganisation. C'est l'effet Amazon du commerce mondial. Et ça, personne n'en parle, alors qu'encore aujourd'hui, les containers, ils sont pleins d'électroniques, de produits électroniques finis et ils sont difficilement remplissables avec des matériaux de construction, des choses dont des intrants B2B pour lesquels les entreprises sont encore un peu en guerre, quoi.
Denis Ferrand, sur les stocks, les chaînes de production.
Oui, je partage complètement le constat de Ludovic. D'ailleurs, il y avait eu aussi dans les commandes, il y avait justement une anticipation des difficultés d'approvisionnement et donc des entreprises qui voulaient être servies à hauteur de 100 pour être sûres d'avoir au moins 50, elles commandaient 200. Ouais. Donc, il y a un moment quand ça se désengorge et de toute façon, ça se désengorgera. Il faut être logique. Si on anticipe qu'on a devant nous plutôt une récession peut-être aux États-Unis, dans certaines économies émergentes, à un moment ou à un autre, l'offre, elle devient un petit peu plus fluide. Et les contraintes, elles changent de nature. D'une contrainte d'offre, d'une contrainte d'approvisionnement, on bascule beaucoup plus sur une contrainte de demande. Et effectivement, ce qui est très important, c'est de regarder un peu les signes avant-coureurs, les signes de discrimination. J'ai l'impression qu'ils sont quand même vraiment très évidents actuellement. Quand vous regardez, par exemple, les introductions en bourse aux États-Unis, au premier semestre, quasiment zéro. Au premier semestre, on avait fait 300 milliards l'année dernière à la même période. Quand vous regardez les émissions high yield aux États-Unis, donc justement celles qu'évoquait Ludovic et qui voient actuellement leur taux monter, les émissions high yield, c'est 74% de moins que l'année dernière à la même période. Donc cette sélectivité, elle se voit en termes de risque, elle se voit d'ores et déjà dans l'attribution du financement, et donc ça vous crée un blocage de l'activité dans plusieurs activités. Et de toute façon, les récessions, elles viennent toujours par les zones les plus friables. C'est pour ça qu'il est effectivement très important de regarder les économies émergentes qui sont confrontées un peu à cette double ou triple peine avec le ralentissement de la Chine, l'augmentation des conditions de financement et peut-être désormais une récession américaine. Donc c'est là qu'il va y avoir les premiers craquements qui vont se faire. Et c'est vrai qu'il faut regarder aussi l'empreinte du Covid. Les pays, c'est... Oui, l'Amérique latine n'a pas recouvré son niveau de 2019, mais même les économies asiatiques, en fait, elles ne sont plus du tout sur la trajectoire de croissance qu'elles avaient quand elles faisaient leur plan d'investissement en 2019. Elles anticipent n'anticipaient pas un arrêt Buffet. Elles anticipaient une progression. Et donc, tous les projets d'investissement se faisaient avec des espérances de rentabilité calées sur des progressions de croissance. Or, pendant les pays d'Asie, on est 5-6% en dessous, non pas du niveau de 2019. Elles sont au-dessus du niveau de 2019, mais en dessous du niveau qu'elles escomptaient atteindre en 2022 quand elles faisaient leurs calculs en 2019. Et donc, ça vous crée des conditions de rentabilité très dégradées pour des entreprises en Asie du Sud, également en Amérique latine.
Laurence Daziano, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir s'habituer à vivre avec une économie mondiale peut-être plus régionalisée, avec un commerce mondial qui se concentre peut-être sur des grands pôles locaux avec des coûts d'entreprise plus élevés. Ça a quand même des conséquences très très grandes et multiples.
Alors, on est passé effectivement pour les entreprises de la mentalité zéro stock parce qu'on peut tout commander au dernier moment, tout va bien. À maintenant, on fait des stocks et effectivement, comme dit Ludovic, ben, quand on fait des stocks dans une entreprise, ça coûte. Il y a aussi ce qu'on appelle la rechaurisation de la production. On essaie d'avoir une production qui soit plus proche du lieu de consommation. Ça, j'attends de voir si ça se fait vraiment parce que ça entraîne quand même beaucoup de coûts de main-d'œuvre et puis de mettre en place et de temps.
Il faut mettre ce fameux commerce entre amis dont parlait Jeannette Yellen.
Oui, le friendshoring. C'est très conceptuel. Hein. Tu veux être mon ami, alors d'accord, je te mets un accord de libre-échange et dans ce cas-là, je te mets zéro tarif.
Mais ça avait déjà commencé. Ouais. Enfin, les accords de libre-échange, ça avait commencé avant et même avant Covid. Hein, parce que si on veut regarder à partir de quand est-ce qu'on commence à avoir de la régionalisation du commerce, ça peut vraiment commencer à partir de Trump quand il dit on va faire la guerre à la Chine et que donc ça commence à réorganiser les flux. Dans l'ensemble, aujourd'hui, les chiffres ne montrent pas qu'il y a eu un arrêt des flux internationaux, parce que comme on consomme beaucoup de matières premières et qu'on les fait venir de beaucoup plus de sources différentes, vu que la source Russie commence à se tarir, au contraire, on voit que les échanges mondiaux, aujourd'hui, ils augmentent. On fait venir, enfin, ça bouge de partout. Donc, la régionalisation de l'économie, il y aura une mondialisation qui va changer un petit peu avec des blocs qui vont se constituer. Je suis moins optimiste sur la réouverture de la Chine que Ludovic. Moi, je ne suis pas sûre que la Chine va se réouvrir telle qu'elle était avant Covid au commerce international. Et je pense que là encore, le politique primant sur l'économique, le Covid est aussi un moyen de refermer la Chine, de limiter l'influence occidentale, parce que c'est pas les produits occidentaux et c'est pas les touristes occidentaux qui font une grande différence sur l'économie chinoise, et que au contraire, même avant la crise, il y avait une volonté de faire recentrer la croissance chinoise sur la demande intérieure, la croissance intérieure, et non plus sur les exportations. Et c'est plutôt un groupe chinois asiatique que moi je vois émerger après la crise.
Et puis la rivalité sino-américaine est au maximum là. Ouais. Parce que nous on parle de Russie, mais moi j'étais aux États-Unis il y a deux semaines, ils ne parlent que de Chine.
Ce sera le mot de la fin. Chers amis, chers téléspectateurs, chers auditeurs, merci d'avoir suivi ces experts du jour. Laurence Daziano, Denis Ferrand, Ludovic Subran, merci à vous trois. Et on se retrouve pour une prochaine émission lundi.